Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif, donc c'est Amnesty International, pour sa première émission du mois de mars, et ça doit faire la cinquième émission depuis le début de l'année, puisqu'on est présent sur l'antenne de Principe Actif deux fois par mois. On dit ça pour les nouveaux auditeurs hein, et auditrices. Et on est là effectivement pendant une heure pour parler de la promotion et de la défense des droits humains, comme depuis des années et des années sur l'antenne de Principe Actif. Et la défense des droits humains, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais ce n'est pas ça qui nous arrêtera. Pour animer l'émission ce soir, il y a Christian.
Oui, ben bonsoir, ravi d'être avec vous ce soir, pour
voilà.
Une fois.
Voilà, oh ben pour une fois, non, t'étais déjà venu, c'est pas la première fois.
Non, c'est pas la première.
Tout à fait. Et puis, on devait avoir Edith et Clairlise, mais Edith ne sera pas disponible. Par contre, elle nous a envoyé un enregistrement qu'on va vous passer après la première pause musicale, qui va vous parler de la répression des migrants aux États-Unis sous l'administration de Trump. Un vaste sujet là aussi. Et puis Clairlise qui préfère se reposer parce qu'elle est très fatiguée. Clairlise milite beaucoup avec Amnesty et les CFED et autres, et elle est très très occupée, donc on lui fait un gros bisou. Voilà. Donc une heure pour parler de la promotion et de la défense des droits humains, comme on vous le disait. Et pour commencer, ben, on va vous parler d'un sujet qu'on n'a pas abordé au cours des dernières émissions, parce qu'on avait d'autres sujets sur le feu, comme on dit. Mais c'est la situation à Gaza, bien évidemment. Surtout qu'on n'entend plus parler de Gaza trop dans les médias avec les débuts des hostilités entre les États-Unis, l'Iran, Israël et compagnie. Et donc, effectivement, à croire que bah, Gaza, la guerre est finie, Christian, tu crois que c'est terminé, ça y est?
c'est peut-être ce qu'on essaye de faire croire, mais on continue à tuer des gens.
C'est ça. Et donc, c'est ce que dit Amnesty dans un communiqué là, qui est très récent, qui a été publié il y a, la semaine dernière. Et que je vais vous lire. Donc, à Gaza, le génocide se poursuit. Les premières victimes sont les filles et les femmes, privées d'accès à la santé, victimes de malnutrition et de déplacements forcés dans des camps insalubres. Elles sont particulièrement visées par la politique de destruction d'Israël. Alors que le Moyen-Orient s'embrase après les attaques conjointes des États-Unis et d'Israël et les répliques iraniennes, nous ne devons pas oublier que le génocide se poursuit à Gaza. Malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis le mois d'octobre 2025, 630 Palestiniens et Palestiniennes sont morts et des milliers ont été blessés dans des frappes israéliennes, d'après le ministère de la Santé de Gaza. Outre les tirs et les frappes qui ne se sont pas tues, les autorités israéliennes maintiennent les conditions de vie qui condamnent la population palestinienne à une mort lente et calculée. Les femmes en sont les premières victimes. Les femmes à Gaza sont privées des conditions nécessaires pour vivre et donner la vie en toute sécurité. Cette érosion systématique de leur droit à la santé, à la sécurité, à la dignité et à un avenir n'est pas une simple conséquence malencontreuse de la guerre. C'est un acte de guerre délibéré visant les femmes et les filles. Depuis octobre 2023, l'accès des femmes au système de santé sexuelle et reproductive à Gaza est gravement entravé. Cette situation est le résultat des bombardements incessants, des déplacements forcés imposés à la population et de la destruction des services de santé reproductive et maternelle. Les unités de soins néonatales, qui parviennent encore à fonctionner, sont débordées et pressurisées. Elles fonctionnent à 150 ou 170% de leur capacité, avec des couveuses parfois partagées par trois nouveau-nés, selon le Fonds des Nations Unies pour la population. Le responsable de soins infirmiers du service de soins intensifs et néonatologie de l'hôpital Chouaba Al-Aqsa, qui dispose de 24 couveuses en état de fonctionnement, a notamment déclaré qu'ils avaient dû réutiliser des fournitures médicales à usage unique. 60% de tous les points de services de santé sont hors d'usage à Gaza, selon l'Organisation mondiale de la santé. 46% des médicaments essentiels sont en rupture de stock, selon le ministère de la Santé palestinien. Dans son rapport de mars 2025, la commission de l'ONU chargée d'enquêter dans le territoire palestinien occupé concluait que la destruction du système de santé sexuelle et reproductive à Gaza s'apparente à deux types d'actes interdits par la Convention sur le génocide. L'imposition de conditions de vie destinées à entraîner la destruction physique des Palestiniens et Palestiniennes et l'imposition de mesures destinées à empêcher les naissances. Les professionnels de santé avec qui Amnesty s'est entretenu ont témoigné que la plupart des femmes qui venaient accoucher dans les hôpitaux souffraient d'anémie due à la malnutrition et les maladies transmises par l'eau insalubre. Alors, un témoignage d'Inde, 22 ans, bien sûr, les noms ont été changés par protection. Donc, c'est une jeune femme qui dit « Je pesais seulement 43 kilos et à l'hôpital de campagne où j'ai accouché, ils m'ont dit que je souffrais de malnutrition. Mon bébé est né avec une double infection pulmonaire. 37 000 femmes enceintes ou allaitantes souffriront de malnutrition aiguë et auront besoin de traitement avant la mi-octobre 2026 » d'après les dernières projections du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire. La malnutrition des femmes enceintes, couplée à la destruction du système de santé, entraîne une augmentation des problèmes de santé maternelle et néonatale. Les professionnels de santé témoignent d'une augmentation d'accouchements prématurés, d'enfants dont le poids est faible à la naissance, de stress prénatal, de dépression postpartum. Il recense également une accélération des problèmes respiratoires chez les mères, exposées au froid et à la pollution accrue, et chez les enfants, surtout ceux dont l'accouchement des mamans, bien sûr, est arrivé avant le terme. Depuis octobre 2023, la population palestinienne est victime d'une politique brutale de déplacement forcé. Plus de 2 millions de personnes, soit 90% de la population de la bande de Gaza, a été illégalement déplacée par les ordres d'Israël. Les populations se retrouvent parquées dans des camps de déplacés où les terribles conditions de vie sont aggravées par un hiver rude avec de faibles températures et des pluies torrentielles qui inondent les tentes. Les femmes enceintes que nous avons rencontrées ont déclaré avoir peiné pour protéger leur nouveau-né de ces terribles conditions. Une infirmière de 24 ans, enceinte de 8 mois, nous a décrit la souffrance de vivre sa grossesse dans une tente au sein d'un camp de déplacés insalubres. Elle était constamment malade à cause du froid. Son mari a été tué dans une attaque israélienne près de leur domicile juste avant qu'elle n'apprenne sa grossesse. Les grossesses et la convalescence postpartum dans des sites délétères et surpeuplés ont non seulement un impact physique mais aussi psychologique destructeur sur les femmes. Meysoun Abu Burek, sage-femme de l'hôpital Al-Awda, le pire, c'est quand on doit aider une mère qui a perdu son mari ou sa famille. Elle doit gérer son foyer, elle doit assumer le soutien émotionnel de son bébé alors qu'elle en a elle-même désespérément besoin. Israël restreint depuis 29 mois l'acheminement des produits indispensables à la survie de la population civile, nourriture, médicaments, matériel médical, matériaux pour les abris ou l'assainissement de l'eau. Avant le cessez-le-feu d'octobre 2025, les points de passage vers Gaza étaient complètement bloqués par l'armée israélienne. Depuis, l'entrée de l'aide humanitaire se faisait au compte-gouttes. Mais avec le lancement de l'attaque israélo-américaine contre l'Iran le 28 février dernier, Israël a fermé les trois points de passage qui permettaient d'accéder à la bande de Gaza avant de rouvrir partiellement le passage de Kerem Shalom. Le gouvernement israélien a décidé d'interrompre les activités de 37 organisations internationales d'aide humanitaire travaillant dans le territoire palestinien occupé. Cette décision a depuis été suspendue par la Cour suprême israélienne le 27 février dernier. Médecins sans frontières fait partie des 37 organisations concernées. L'ONG a pourtant fourni des services essentiels en matière de soins prénataux et postpartum ambulatoires à des dizaines de milliers de femmes et de nourrissons depuis le début du génocide. Medical Aid for Palestinians, qui fournit des soins de santé pour les mères et les enfants dans deux hôpitaux de la ville de Gaza et dans la ville de Khan Younes, est également concerné. Il serait très difficile, voire impossible, pour le système de santé palestinien, anéanti par les attaques israéliennes, de prendre en charge les services essentiels fournis par les organisations humanitaires. Plus de 18 500 Palestiniens et Palestiniennes à Gaza ont besoin de traitements urgents qui ne sont pas disponibles à cause de la destruction du système de santé. Mais depuis le 7 octobre 2023, les évacuations médicales sont presque complètement interdites. La réouverture partielle des points de passage après le cessez-le-feu ont permis l'évacuation médicale de 289 personnes. Mais le processus est complètement à l'arrêt depuis le début de l'offensive des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Iman, là aussi c'est un nom d'emprunt, est une Palestinienne qui reçoit un traitement contre le cancer à l'hôpital dans la ville de Gaza. Ses séances de chimiothérapie ont été repoussées à deux reprises car les médicaments nécessaires n'étaient pas disponibles. Elle est inscrite sur la liste des personnes qui attendent une évacuation médicale. Elle dit « J'ai appris l'année dernière que je souffrais d'un cancer du sein et depuis j'ai été déplacée à quatre reprises. Je pouvais à peine bouger, mais je devais aussi porter mes enfants. Le déplacement associé à la maladie vous tue. » Alors, quelles sont les demandes d'Amnesty par rapport à cette situation absolument insupportable des atteintes aux droits des femmes à Gaza ? Donc, les demandes, c'est Israël doit lever les restrictions illégales qui empêchent l'acheminement de l'aide humanitaire. Les autorités israéliennes doivent cesser l'obstruction des évacuations médicales et garantir la possibilité à celles et ceux qui le souhaitent de revenir. Les États doivent exercer une pression diplomatique et économique afin de pousser Israël à mettre un terme au génocide à Gaza. La France doit mettre fin à l'impunité d'Israël. Un génocide a lieu en direct sur nos écrans, sous le regard de nos dirigeants. La France doit passer aux actes. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, vous avez au moins, c'est un minimum, une pétition qui est actuellement en première position, que si vous allez sur le site d'Amnesty France, amnesty.fr, vous avez une pétition dans la rubrique pétition à signer. Et la première, c'est une pétition auprès des autorités françaises, M. Emmanuel Macron, qui lui demande de mettre tout son poids pour que cesse effectivement ce génocide à Gaza. Et la France, ainsi que l'Europe, doivent également cesser de fournir du matériel militaire à Israël, puisqu'il sert à continuer à pratiquer ce génocide. Voilà, c'était important, je crois, de faire ce point. Et encore une fois, il y a suffisamment dans ce texte d'horreurs qui sont décrites pour effectivement prendre bien conscience que c'est une situation absolument intolérable et qu'il faut tout mettre en œuvre pour y mettre un terme. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet de la situation à Gaza. Et il y a Christian qui voulait vous dire quelques mots. Alors on va rester pas très loin de Gaza et d'Israël et de la Palestine, puisque ça concerne, je crois, la Tunisie, qui est, alors mais c'est lui qui va vous le dire, qui est le pays de naissance de Christian.
Voilà, ça y est, il me coupe tous mes effets.
J'ai vendu la mèche.
C'est pas grave. Alors oui, la Tunisie, c'est un pays auquel je tiens beaucoup. J'y suis né, mes parents y sont nés. Mes grands-parents, ils sont installés à la fin du 19e siècle. Vous voyez, c'est pas récent. Et bon, ce pays, il me tient à cœur pour des tas de raisons. Et j'ai essayé d'y retourner après mes 30 ans, d'ailleurs, parce que j'ai hésité longtemps. Je craignais d'être déçu. Donc la Tunisie a eu son indépendance en 1954, sauf erreur de ma part. Donc moi, j'en suis parti en 58 et j'y suis retourné en 1980. Voilà. Donc après la Révolution, c'est Habib Bourguiba qui a pris le pouvoir, qui est le père de la Tunisie. C'est lui qui est à l'origine de l'indépendance et qu'on a beaucoup critiqué et qui, comme beaucoup de chefs d'État, fait aussi des bonnes choses, en particulier pour les femmes. Je précise que les femmes tunisiennes ont le droit de divorcer, ce qui est pas mal pour un pays musulman. Bourguiba, donc, malheureusement, n'était pas éternel. Et c'est Ben Ali qui lui a succédé, qui a essayé de continuer sur les mêmes programmes que son prédécesseur, qui a fait aussi des erreurs et qui fait que un jour, il s'est trouvé face à une révolution qu'on a appelée la révolution du jasmin. Je sais que le jasmin est une fleur très connue, très commune en Tunisie, dans le bassin méditerranéen d'ailleurs en règle générale. Et donc depuis, le régime a quand même beaucoup changé. Les libertés, étaient un peu plus réduites. Et en particulier, donc après l'élection qui a eu lieu il y a un peu plus d'un an maintenant, c'est le président qui a été réélu avec une faible majorité de 90 et quelques pourcents. Le président qui s'appelle Kais Saied. L'opposition, elle était inexistante. Et pour cause, elle a été muselée. Beaucoup étaient en prison ou interdits. Donc, élection facile, puisqu'il n'y a qu'un candidat. Au passage, une participation de à peine 28%. Donc oui. Les Tunisiens n'ont pas été enthousiasmés à l'idée de le réélire, mais toujours est-il qu'il est là. Donc les libertés en Tunisie, elles sont quand même très réduites. Il y a beaucoup d'opposants en prison, je viens de le dire. Un autre facteur aussi que moi je trouve triste, puisque j'ai déjà eu l'occasion ici de parler des migrants, la Tunisie fait la chasse aux migrants de façon terrible. Et il faut savoir quand même que pour beaucoup, après avoir traversé éventuellement le Niger, le Nigeria, le Sahara, c'est un point d'accès. C'est facile, la Tunisie, après, de prendre un bateau pour l'Italie, la Tunisie ou la Libye. Et donc, répression envers les migrants est terrible. Voilà. Je voulais dire aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Tunisie a deux ressources essentielles. L'huile d'olive, bien connue, et le tourisme. Et le tourisme fait vivre énormément de gens. Et je peux vous dire, moi qui connais bien ce pays, sur toute la côte, la dernière fois que j'y suis allé, j'ai vu à Djerba des hôtels, pourtant neufs, fermés. C'est-à-dire que il n'y a plus de clients. Et s'il n'y a plus de clients, il n'y a plus de ressources. Et s'il n'y a plus de ressources, il n'y a plus de travail. Voilà. Je suis un peu triste de dire ça, parce que je vous dis, j'aime ce pays et... Bon, espérons.
Et par rapport à ce que tu viens de dire, il y a une petite précision que j'aimerais apporter. C'est quand, par rapport au gouvernement avant la révolution de Ben Ali, c'était un gouvernement qui était extrêmement autoritaire, dirons-nous.
Tout à fait.
Et c'était
fait.
En fait qui tout avait à petit à petit rogné sur les droits civils et politiques et la démocratie. Et si la révolution en Tunisie, alors j'ai plus la date en tête, je crois que c'était en 2013, donc
ouais, c'est ça, à peu près.
Je pense, quelque chose comme ça. Enfin, c'était le début de ce qu'on a appelé à l'époque les printemps arabes. Voilà, c'était le premier pays à se révolter puis à renverser le régime, et le régime était extrêmement non respectueux des droits fondamentaux, comme rappelle-moi le nom du président actuel, là que j'oublie à chaque fois,
Kais
Saied, qui refait en fait, enfin, avec un autre parcours personnel, mais qui refait la même chose, qui remet lui aussi en cause les droits fondamentaux, etc., etc., et qui instaure un régime extrêmement autoritaire. Donc voilà. Et nous, on a défendu une avocate au cours de la dernière campagne « Changer leur histoire » à la fin de 2025. Une avocate tunisienne qui était en prison uniquement parce qu'elle avait pris position contre le président sur différents médias. Et on a obtenu au moins sa libération, ce qui est déjà quelque chose d'énorme pour elle, même si on continue à la soutenir, parce que pour l'instant, il y a encore des chefs d'inculpation qui pèsent sur sa tête alors qu'elle n'a commis aucun délit.
Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Didier. Donc en fait, la Tunisie a remplacé un régime autoritaire par un régime autoritaire.
Oui, c'est ça.
Différent. Avec,
c'est ça.
En plus, une influence religieuse, disons, voilà, dans le gouvernement.
Ok, bah, on va passer tout de suite à la première pause musicale. Alors, comme on parlait de Gaza, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ce morceau. Et puis, on se retrouve juste après.
S'il est écrit quelque part que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une étoffe et des ficelles. Faites en sorte qu'elle soit bien blanche, avec une longue traîne, afin qu'un enfant quelque part à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, partit subitement sans avoir fait d'adieu à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant quelque part à Gaza puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut. Et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange revenu lui apporter de l'amour. S'il était écrit que je dois mourir, alors que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire. Il voudrait que l'on t'oublie,
Gaza, Gaza.
Que ton nom soit interdit, toi l'enfant de Palestine,
Gaza, Gaza,
qui se relève et qui s'obstine,
Gaza, Gaza,
de tout ton cœur, de tout ton être,
Gaza, Gaza,
à ne jamais disparaître,
Gaza, Gaza,
de cette terre qui t'a vu naître,
Gaza, Gaza,
de ce pays, de tes ancêtres,
Gaza, Gaza.
Aujourd'hui mon cœur est lourd, aujourd'hui le monde est sourd,
Gaza, Gaza,
et laisse faire les actes infâmes,
Gaza, Gaza,
enfant qu'on tue ou qu'on affame,
Gaza, Gaza,
qui fait semblant de ne pas voir,
Gaza, Gaza,
qui feint de ne pas savoir,
Gaza, Gaza,
a perdu son humanité,
Gaza, Gaza,
son honneur et sa dignité. Tu te relèveras, c'est sûr,
Gaza, Gaza.
Tu survivras à tes blessures,
Gaza, Gaza.
Et tu verras haut dans ton ciel,
Gaza, Gaza.
Au bout d'une longue ficelle,
Gaza, Gaza.
Comme un ange qui flotte au vent,
Gaza, Gaza.
Une toile, un cerf-volant,
Gaza, Gaza.
Inscrit dessus en toutes lettres,
Gaza, Gaza.
Les derniers mots de ton poète,
Gaza, Gaza.
S'il est écrit que je dois mourir,
il vous appartiendra de vivre,
il vous appartiendra de vivre,
que ma mort apporte l'espoir,
que ma mort apporte l'espoir,
que ma mort devienne une histoire,
que ma mort devienne une histoire.
Retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International, pour la suite de son émission sur la promotion et la défense des droits humains. Donc le morceau qu'on vient d'entendre, on l'avait déjà passé il y a quelques temps. Et c'est un morceau, c'est un poème écrit par un Palestinien qui a été traduit et mis en musique par HK. Et donc effectivement, bah, par rapport au premier sujet que j'ai abordé en début d'émission, effectivement, c'est très facile de faire le lien. Voilà. Et je crois qu'il y avait Christian qui voulait faire un petit supplément d'information par rapport à la Tunisie. C'était par rapport à la fête nationale, je crois, c'est ça.
Oui, oui. Oh ben, oh, j'ai oublié tout à l'heure, c'est pas dramatique. Mmh. Mais c'est bientôt. C'est le 20 mars. Bah, voilà. Le 20 mars, et bah, ça va célébrer l'indépendance de ce pays que Les Français ont occupé bien longtemps.
Oui.
Mais c'est pour ça que j'y suis né, d'ailleurs.
Et on espère qu'il pourra retrouver la démocratie le plus tôt possible. Donc, on va passer. Donc, on vous disait qu'Edith participe à l'émission, mais nous a envoyé un petit enregistrement parce qu'elle ne pouvait pas être derrière le micro tout de suite. On va le passer tout de suite. Et c'est sur la situation et la répression des immigrés aux États-Unis. Donc, on l'écoute.
Série Ma vie sous Trump, dont on vous a parlé dans les dernières radios, Ma vie sous Trump quand je suis un juge ou un journaliste ou un médecin. Eh bien là, ce dernier article, le sixième de la série, c'est Ma vie sous Trump quand je fais partie d'une famille immigrée traquée par ICE. Alors l'endroit, c'est la Floride, état à forte communauté latino, qui est devenu l'un des laboratoires de la politique anti-immigration de Donald Trump. Ici, la police de l'immigration, l'ICE, opère partout, dans les supermarchés, devant les écoles, aux portes des hôpitaux. Et la peur au ventre des familles immigrées n'osent plus sortir, à peine parler. Leur plus grande peur, être arrêtées et séparées de leurs enfants. Dans le sud de Miami, une femme tente de les protéger, Nora Sandigo, qui depuis 30 ans vient en aide aux familles immigrées. Cette Nicaraguaine de 60 ans naturalisée américaine a plus de 700 enfants sous sa protection, car depuis 2006, avec sa fondation Nora Sandigo Children Foundation, elle vient en aide aux familles immigrées en devenant la tutrice légale des enfants dont les parents ont été expulsés ou risquent de l'être. Nora n'est pas avocate. Sa vocation à elle, c'est d'aider chaque fois qu'elle le pourra. Ma vie, elle est au service de celle des autres, dit-elle comme une évidence. Et depuis un an, le téléphone de Nora n'arrête pas de sonner. Je reçois près de 20 appels par jour de familles désespérées, du jamais vu. Les familles ont tellement peur d'être arrêtées et séparées de leurs enfants que les parents appellent Nora pour leur confier la garde de leurs enfants par précaution. Les parents conservent leur autorité parentale, mais en tant que tutrice légale, Nora peut accompagner les enfants chez le médecin, les conduire à l'école, les représenter légalement. Et si un jour les parents sont arrêtés, c'est elle qui prendra en charge les enfants et subviendra à leurs besoins. En 2025, le nombre d'enfants placés sous sa tutelle a dépassé celui de toutes les années précédentes. Face à ce qu'elle décrit, le moment le plus sombre de l'histoire de l'immigration aux États-Unis, Nora voit le quotidien des familles bouleversées. C'est chez elle qu'elle nous présente Maria. Maria, 32 ans, est originaire du Guatemala. Elle passe l'après-midi chez Nora, qui est devenue la tutrice légale de ses deux enfants, Alma, 11 ans, née au Guatemala, et Alex, 5 ans, né aux États-Unis. Maria, elle, vit en Floride depuis 8 ans. Sans papier, elle élève ses enfants seule désormais, car son mari, Roberto, le père de ses deux enfants, a été arrêté par l'ICE. 29 septembre 2025. Ce matin-là, comme tous les lundis, Roberto part tôt. Il travaille dans le bâtiment. Ses chantiers sont à une heure de route de la maison. Depuis quelques semaines, il change ses trajets, fait des détours, évite certains axes par peur de croiser l'ICE. Mais ce matin-là, la police de l'immigration est sur sa route et Roberto est embarqué. Il a juste le temps de passer un appel. L'immigration m'a attrapé et la ligne coupe. Maria est au bout du fil. J'ai ressenti une douleur impossible à décrire. Il est 6h30 du matin quand elle apprend l'arrestation de son mari. Elle ne dit rien à sa fille, attendra son retour de l'école pour lui annoncer que son père a été arrêté. Alma, 11 ans, est en CM2. Elle vivait simplement sa vie d'enfant jusqu'à ce dernier lundi de septembre. Jamais je n'aurais imaginé l'arrestation de mon père. J'avais une vie tranquille. Depuis qu'ils ont arrêté mon père, ma vie n'est plus la même. C'est un père formidable. Elle raconte leurs petits rituels de famille, les balades, les jeux, le restaurant préféré. Quand on lui demande comment elle se sent, elle marque un silence et répond avec pudeur « Je vais bien ». Depuis l'arrestation de son père, Alma pose en boucle la même question à sa mère. « Et si un jour il t'arrête, qu'est-ce qu'il va nous arriver ?» Malgré le risque d'être arrêtée, Maria a fait le choix de continuer d'accompagner sa fille à l'école tous les matins. D'autres familles ont fait un choix différent. Les enfants restent à la maison avec des cours en ligne. Mais Maria ne veut pas de ça pour sa fille. La matière préférée de sa fille, c'est l'éducation physique. Le parc, c'est fini, ils n'y vont plus. Mais à l'école, au moins, elle peut souffler encore, courir, être un enfant. Alors après l'appel furtif de son mari au moment de son arrestation, Maria n'a pas eu de nouvelles de lui pendant au moins 3 jours. Roberto a fini de l'appeler. Il a été envoyé à Alligator Alcatraz, un centre de détention créé à la halte en juin 2025 par l'État de Floride, financé par l'administration Trump, sans aucun registre officiel de détenus. Roberto a passé un mois là-bas avant d'être transféré dans un centre au Texas à plus de 2500 km de chez lui. Pendant 3 mois, avec l'aide de Nora, Maria a tout fait pour le libérer. Contacté un avocat, elles avaient des raisons d'y croire. Roberto n'a pas de casier judiciaire et il bénéficie du programme DACA créé en 2012 pour les personnes arrivées aux États-Unis. Alors qu'elles étaient mineures, un statut qui lui permet de vivre et de travailler dans le pays. Puis, la nouvelle tombe. Roberto a été expulsé au Guatemala sans aucun jugement. Nora confirme. Peu importe ce que tu as comme document, asile politique, statut de protection temporaire, programme DATA ou tout autre titre de séjour permanent, aujourd'hui, tout a été anéanti, il n'y a plus de protection. C'est ce qu'elle observe sur le terrain. Ce que nous n'avions encore jamais connu aux États-Unis, c'est à quel point il est facile pour un gouvernement de détruire tout ce que nous considérions comme une protection légale. Et ils détruisent les familles. Roberto au Guatemala, Maria en Floride aux États-Unis. En accord avec son mari, ils ont pris la décision qu'elle reste à Miami avec les enfants, malgré le risque d'être arrêtée à tout moment. Quand on demande à Maria comment elle va, elle dit « La situation n'est pas facile. » Maria vend des plats cuisinés à ses voisins pour s'en sortir, car c'était le travail de Roberto qui couvrait tout. Le loyer, les sorties des enfants, les courses. Alex a 5 ans, lui, il ne comprend pas. Il croit toujours que son père va revenir. Mais quand est-ce qu'il va venir? Quand ils arrivent à téléphoner à son mari, quand elle a un peu d'argent sur sa carte, Alex prend le téléphone et dit « Il faut que tu reviennes, je veux jouer avec toi. » À sa fille, Roberto dit autre chose. Il dit « Il me dit de prendre soin de moi, de ne pas être triste. » C'est le téléphone actuellement qui fait famille entre le Guatemala et eux. Maria, c'est l'église qui l'a fait tenir. Elle essaye d'y aller 2 à 3 fois par semaine avec ses enfants. L'un des rares endroits où elle s'autorise encore à sortir. Mais dimanche dernier, ils étaient tous prêts et le pasteur lui téléphone. Là, il est devant l'église, ne venez pas. Plusieurs personnes avaient déjà été arrêtées. Maria raccroche, se retourne vers son petit garçon qui lui dit « Bah, pourquoi on n'y va plus ?» Elle lui dit « Mais non, aujourd'hui on va jouer, on ira une autre fois. » Alma, elle, a compris. Un à un, les lieux du quotidien sont devenus trop risqués. L'ICE est partout, même dans les lieux protégés. Nora résume. Lors du premier mandat de Trump, l'ICE opérait aux frontières. Des images avaient déjà choqué le monde entier où l'on voyait des enfants en pleurs se retrouvant seuls, séparés de leurs enfants qui venaient d'être expulsés. Mais pour ce deuxième mandat, l'ICE n'est pas qu'aux frontières, c'est aussi dans la ville. Tu peux être arrêté, frappé, disparaître dans n'importe quelle prison sans que personne ne sache où tu es. Tu n'as aucun droit. Tu n'es plus une personne, tu es un numéro. Nous sommes à la merci d'un gouvernement qui impose par la force, non d'une loi qui protège. Les supermarchés, c'est vraiment des endroits très dangereux. Nora fait maintenant des courses à des familles qui refusent de sortir et elle leur dépose des courses à domicile. Les hôpitaux, des femmes enceintes refusent d'y aller de peur d'être arrêtées. Alors, Nora essaye d'organiser des visites privées, des consultations à domicile. Les tribunaux, des personnes sortent d'une audience et se retrouvent embarquées directement vers un centre de détention. Ils ont détruit les systèmes et les lieux où on se sentait encore protégé et en sécurité, dit Nora. Et Homestead, où ils habitent, quartier du sud de Miami, ben les trottoirs sont vides. Nora connaît ce quartier depuis des années, mais elle ne reconnaît plus. Les commerces tournent au ralenti, les rues se sont tues, les parcs sont vides. C'est une ville fantôme qui s'est totalement transformée. Alors là, ils arrivent à retrouver, elles ciblent les travailleurs qui bougent, les exploitations agricoles, les couvreurs, qui sont interpellés un outil à la main en plein milieu de la journée. Mais alors, dans ces quartiers désertés, quelque chose se passe. Des commerçants ou des voisins qui jusque-là ne s'étaient jamais intéressés aux droits des personnes étrangères veulent aujourd'hui aider. Ils m'appellent et réalisent que ces familles, avec ou sans papier, font tourner l'économie locale depuis des années. Sans elles, leurs commerces ne survivront pas. Et ils s'inquiètent pour leurs propres familles. L'inquiétude s'étend de maison en maison. Tout le monde a un voisin, un ami, quelqu'un qui gardait ses enfants ou entretenait le jardin et qui aujourd'hui n'est plus là. Dans ces quartiers fantômes naît une solidarité nouvelle, une raison d'espérer pour ensemble résister. Car effectivement, Nora ne baisse pas les bras. C'est le moment où nous devons faire vivre l'unité des États-Unis. Nous devons résister, car ce n'est qu'ensemble qu'on pourra faire changer cette situation de chaos. Alex joue avec Alma, sa grande sœur. Maria les regarde et sourit. « Quand je suis venue aux États-Unis, confie-t-elle, je suis venue avec le rêve d'aller de l'avant et d'offrir une bonne éducation à mes enfants. C'est tout ce que je souhaite. » Quand on avait demandé à Alma, qui parle si peu, qui contient tout, quel était son rêve, elle s'était soudain redressée. Le regard vif, quelque chose s'était ouvert dans sa voix. « Je veux être infirmière, ici à Miami. » Devant sa mère et Nora, celle qui la protégera si le pire devait arriver, Alma, 11 ans, affirmait déjà une forme de résistance. Voilà ce témoignage bien émouvant.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc effectivement, on remercie Edith qui nous a envoyé ce témoignage, qu'on a passé intégralement dans l'émission et qui est tout à fait parlant sur les atteintes aux droits fondamentaux, là aussi aux États-Unis avec l'administration de Trump. Ce qui est frappant dans ces témoignages, c'est que quand on remet en cause les droits fondamentaux, et ça c'est historiquement toujours vrai, c'est que de toute façon, les atteintes aux droits fondamentaux amènent toujours la violence, systématiquement. Et les régimes autoritaires, beaucoup ou moins autoritaires, mais tous les régimes autoritaires utilisent toujours la répression et la violence pour essayer d'en venir à leur fin. Donc il faut y penser quand on met un bulletin de vote dans l'urne, quelles que soient les élections. Effectivement, seule la défense des droits fondamentaux permet d'avoir une société, disons, avec des rapports sociaux apaisés. Sinon, c'est toujours violent, la preuve. Je voulais faire un tout petit complément d'information par rapport à ce que nous a dit Edith. C'est que si vous avez été ému par ce témoignage, on ne peut que l'être, il y a une action sur la page d'Amnesty, sur amnesty.fr, le site d'Amnesty France, qui conclut cet article, qui vous propose d'agir, parce que s'émouvoir c'est bien, mais agir c'est mieux, qui vous propose d'agir, c'est une action urgente. C'est un mail, en fait, à remplir et à envoyer, mais c'est très simple, c'est très bien expliqué. C'est tout à fait en bas de la page, sur cet article, et c'est une interpellation de la secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis, donc une collaboratrice de Donald Trump, qui s'appelle Kristi Noem, et donc on lui rappelle son obligation de respecter les droits fondamentaux des populations immigrantes et de respecter les droits fondamentaux humains. Donc n'hésitez pas à la faire. Plus on sera nombreux à envoyer ces mails auprès de l'administration Trump, plus on aura du poids, bien évidemment. On va passer tout de suite la deuxième pause musicale. Alors, puisqu'on parlait de migrants, j'ai aussi choisi un morceau qui ne parle pas de migrants aux États-Unis, mais de migrants en France, qui date des années 70. Mais vous allez comprendre que la situation en France ne s'est pas beaucoup améliorée depuis ce qui est raconté dans cette chanson.
Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Les citrons, c'est les négros, tous les bronzés d'Afrique, Sénégal, Mauritanie, autre Volta, Togo, Mali, Côte d'Ivoire et Guinée, Bénin, Maroc, Algérie, Cameroun et tout y quanti, Cameroun et tout y quanti. Les colons sont partis avec que des flonflons, des discours solennels, des bénédictions. Chaque peuple, c'est normal, dispose de lui-même et doit s'épanouir dans l'harmonie. Une fois qu'on l'a saigné aux quatre veines, qu'on l'a bien ratissé et qu'on lui a tout pris. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Sont partis, ils ont mis à leur place une nouvelle élite de noirs bien blanchis. Le monde blanc rigole, les nouveaux c'est bizarre, sont pires que les anciens, c'est sûrement un hasard. Le monde blanc rigole quand un petit sergent se fait sacré empereur avec mille glorioles. Après tout, c'est pas grave du moment que les terres produisent pour les blancs ce qui est nécessaire. Le coton, l'arachide, le sucre, le cacao remplissent les bateaux, saturent les entrepôts. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Après tout, c'est pas grave, les colons sont partis, que l'Afrique se démerde, que les paysans crèvent. Les colons sont partis avec dans leur bagage quelques bateaux d'esclaves pour pas perdre la main. Quelques bateaux d'esclaves pour balayer les rues. Ils se ressemblent tous avec leur passe-montagne. Ils ont froid à la peau et encore plus au cœur. Là-bas c'est la famine et ici la misère. Et comme il faut parfois manger et puis dormir dans des foyers taudis, on vit dans le sordide. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. La crise nous envahit aussi, on les renvoie chez eux, ils seront plus heureux, qu'on leur donne un pourboire, faut être libéral, et quant à ceux qui râlent, un bon coup de pied au cul. Vous comprenez monsieur, c'est quand même pas normal, ils nous bouffent notre pain, ils reluquent nos femmes, qu'ils retournent faire les singes dans leur cocotier, tous nos bons nègres à nous, qu'on a si bien soignés. Et puis ce qui est certain, c'est qu'un rien les amuse, ils sont toujours à rire, ce sont de vrais gamins. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau.
Retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International, pour la suite de son émission et sur la promotion et la défense des droits humains. Et donc, si vous avez écouté les paroles de cette chanson qui date de François Béranger, qui date des années 70, effectivement, la situation en France par rapport à, comment dire, aux migrants d'origine africaine n'a pas beaucoup changé, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Je pense qu'il y a un certain nombre de responsables politiques actuels dans certains partis politiques et autres qui feraient bien d'écouter ça, parce qu'en fait, c'est une description ironique, mais ils continuent à véhiculer les mêmes a priori, les mêmes stéréotypes, et à tenir des discours qui font toujours aussi froid dans le dos que ce que François Béranger traite de façon ironique dans sa chanson. Voilà. En émission d'Amnesty, sans petite interlude culturelle, parce que bon, on vous parle toujours de choses qui sont un petit peu dures, un petit peu compliquées, donc de temps en temps, ça fait aussi du bien d'écouter ce que la culture propose d'un peu plus apaisé. Et je crois que c'était Christian qui voulait vous parler de cinéma iranien.
Et oui, alors vous voyez, aujourd'hui, j'ai parlé de mon pays, maintenant j'ai parlé d'une de mes passions, le cinéma. Et l'an dernier, le jury du Festival de Cannes a eu la bonne idée de récompenser un film iranien. Et ça tombe bien, puisqu'on parle beaucoup d'Iran ces temps-ci, donc ce film qui s'appelle « Un simple accident », que mes amis d'Amnesty ont programmé à Évreux. Et donc
oui, on a fait une soirée spéciale.
Il y a une soirée spéciale. Ouais. Vous avez peut-être eu l'occasion de le voir. Donc je vous rappelle juste le thème, c'est quelqu'un qui croit reconnaître la personne qui l'a torturé quelques années plus tôt. Et donc, indécision, qu'est-ce que je fais? Je me venge, voilà. Et en plus, c'est coïncidence, ce film m'a rappelé un film des années de 1990, pour être précis, de Roman Polanski, qui s'appelle « La jeune fille et la mort », que vous avez sans doute vu aussi, et qui raconte l'histoire de cette femme qui croit reconnaître dans l'invité de son mari celui qui l'a torturée quand elle était prisonnière d'un régime politique extrémiste d'Amérique du Sud, qu'on ne cite jamais dans le film, mais enfin, facile de deviner d'où ça vient. Et c'est pareil, ces tergiversations, que vais-je faire? Est-ce que je le tue? Voilà, très intéressant. Mais je reviens au cinéma iranien qui... Je vais vous citer quelques films. Ce ne sont pas des films que soutenus forcément par Amnesty.
C'est pas grave.
Mais qui sont très révélateurs de ce pays. Et puis, c'est des coups de cœur que j'ai eus. Alors, dans le désordre, La femme qui en savait trop. J'ai bien aimé ce film. C'est l'histoire d'une dame d'un certain âge déjà, qui est témoin d'un meurtre commis par quelqu'un proche du gouvernement. Et donc, elle, c'est pareil, ça va être l'hésitation. Est-ce que je continue à témoigner contre lui, à le faire interner et tout, ou est-ce que j'essaye de sauver ma peau? Parce que elle craint les représailles. Voilà. Au passage, le titre original du film est « Witness ». Et pourquoi ça a été traduit en français par « La femme qui en savait trop », je ne sais pas. Oui, mais bon.
C'est les mystères des traducteurs, parfois.
Exactement. Un autre film aussi que j'avais beaucoup aimé, « Les graines du figuier sauvage ».
Oui, oui.
Voilà.
Je l'ai vu aussi, effectivement.
Didier approuve. Oui, donc,
oui. J'approuve à 150%.
Merci. Donc le thème, en gros, c'est au début de... Comment dire? Des insurrections en Iran. Une famille, le père est assez partisan des sanctions qui sont prises. Les filles sont très engagées dans la contestation.
Oui.
Et la femme, elle hésite, elle ne sait pas trop. Voilà. Mais j'en dis pas plus parce que je voudrais que vous regardiez ces films. Puis j'en ai un autre aussi. Tiens, et en plus, ceux qui ont la chance d'avoir Canal+, vous pouvez le voir, il passe en ce moment. Alors, vous voyez, ça s'appelle « Lire Lolita à Téhéran ». C'est l'histoire d'une femme professeure en fac qui a été licenciée parce qu'elle ne voulait pas porter le voile. Ça, c'est une autre histoire. C'est pas le thème. Et donc, ce qu'elle fait, elle organise des cours clandestins avec ses étudiantes pour découvrir la littérature occidentale, bien entendu bannie par le régime des mollahs et des ayatollahs. et donc entre autres, bien sûr, Lolita de Nabokov. Voilà, si j'ai réussi à vous convaincre, eh ben, passez une bonne soirée devant ces films ou allez les voir au cinéma. Et je trouve que ce cinéma iranien mérite d'être connu, surtout quand on sait que souvent il est filmé clandestinement,
oui,
en cachette.
C'est ça.
Et que ben, ces gens-là risquent leur vie. Ça a été le cas aussi pour le cinéma turc il y a quelques années, mais bon, c'est un autre sujet. Voilà, ben, je rends la parole à mon ami Didier.
Non, mais tu peux la garder, il n'y a pas de souci. Non, c'était très intéressant, effectivement. Ben, écoute, moi, je vais essayer de voir ce film que je ne connais pas, lire Lolita à Téhéran, effectivement, oui. Voilà. Et il y a un autre film qui m'est revenu en mémoire pendant t'écoutant parler. Mm-hmm. Mais par contre, je n'ai plus du tout, c'était aussi un film iranien, je n'ai plus du tout le titre en tête. Mais bon, ça peut se retrouver. Je me souviens, en fait, la thématique du film, c'était effectivement comment, c'était plusieurs séquences différentes, hein, plusieurs scènes différentes et plusieurs situations différentes. Voilà. Et c'était comment peut-on, effectivement, dans la vie quotidienne, par idéologie, par croyance ou par indifférence ou par toute autre raison, comment peut-on passer à un acte violent ? Comment peut-on provoquer un acte violent qui va nuire à la vie des autres et sans qu'on se pose trop de critères moraux ? Et je me souviens de la première scène qui m'avait frappé dans ce film. Encore une fois, je n'ai plus le titre en tête, mais on voyait effectivement une famille avec un brave père de famille aller faire ses courses dans Téhéran, rentrer chez lui, faire la cuisine, être parfaitement sociable, s'occuper de ses filles, là aussi, effectivement, passer du temps avec sa femme, enfin, etc., etc. Et on découvre un peu plus loin, dans la même scène, qu'en fait, ce monsieur, quand il va travailler, eh bien, c'est un bourreau qui exécute des condamnés à mort. Voilà. Et en fait, visiblement, il le fait sans beaucoup se poser de questions. Et la dernière scène de cette séquence-là, c'est quand il appuie sur le bouton qui vont faire que les corps vont tomber dans le vide et vont être pendus. Et il regarde ça sans broncher et il retourne après chez lui. Voilà. Moi, ça m'avait frappé. Alors, j'ai pas le titre en tête, effectivement. Là. C'est en t'écoutant que ça m'est revenu. Mais ça peut se retrouver, je pense, ce film. Et c'était un film iranien. Comme quoi, effectivement, les Iraniens se posent beaucoup la question, beaucoup, souvent, très souvent la question des atteintes aux droits et de la violence et des liens qu'il y a entre ces deux choses. Voilà. On va s'approcher tout doucement du terme de l'émission. On a quelques infos locales. Alors, donc, qu'on va vous donner. Il y a notre prochaine émission, déjà en direct sur l'antenne de Principe Actif. Ben, ce sera en toute fin de mois, puisqu'on est de retour en direct à 19h jusqu'à 20h, le mardi 31 mars, dernier jour du mois. Donc voilà, on le termine. Et puis, puisqu'on parlait de cinéma, ça tombe bien, on a effectivement programmé, là, tout à fait récemment, alors c'est un petit peu plus loin dans le temps, mais vous pouvez déjà noter la date, le jeudi 9 avril, à 19h15, on réorganise à nouveau une soirée cinéma spéciale au cinéma Pathé ici à Évreux, avec un film qui s'appelle, alors c'est tout, son titre est tout à fait ironique, c'est un film soutenu par Amnesty, là, un film documentaire qui n'est pas du tout, qui est sorti au début de l'année, mais qui n'est jamais passé à Évreux, et qui s'appelle Tout va bien. Et donc, alors le thème de ce film, encore une fois, c'est un documentaire. Hein, ce ne sont pas des acteurs, ce sont des gens qui sont interviewés et qui vivent dans le réel. Ce sont des migrants, là aussi, venus d'Afrique, pour la plupart, qui arrivent en France après avoir traversé tout ce qu'on sait de parcours particulièrement difficiles et dangereux à travers l'Afrique, à travers le Sahara, à travers la Tunisie. Christian vous en parlait tout à l'heure, à travers la Méditerranée, tout ce qu'on sait et tout ce qu'on a déjà eu l'occasion d'aborder de nombreuses fois dans nos émissions, et qui arrive en France et qui commence à avoir effectivement à faire les démarches pour obtenir des titres de séjour. Ce sont en général des jeunes majeurs, des jeunes mineurs isolés, enfin, etc. Ils arrivent à Marseille, ils font les premières démarches et ils s'aperçoivent que, contrairement à ce qu'ils croyaient, la situation pour acquérir des droits en France est bien plus compliquée que ce qu'il pensait. Voilà. Et donc ce film s'appelle tout va bien. Effectivement, c'est, encore une fois, c'est tout à fait ironique. Donc ce sera le jeudi 9 avril à 19h15 au Cinéma Pathé. Donc on compte sur vous pour être présent à cette soirée et cocher déjà la date sur votre calendrier. Voilà. Je ne sais pas si Christian, tu avais un autre petit mot à dire aux auditeurs et aux auditrices par rapport à ton vécu de radio, si tu veux en parler.
Ben écoutez, puisque j'ai commencé tout à l'heure par un anniversaire de l'indépendance de la Tunisie, j'ai envie de parler d'un anniversaire que nous allons fêter au mois d'octobre cette année, les 40 ans de la loi Veil sur la légalisation, le droit à l'avortement. Ça, il souffle tout le jour.
Hein, oui, c'est ça. Ah, c'est plus fort que moi.
C'est une date très importante. Et alors, je me suis permis de regarder sur les pays, tous les pays de l'Union européenne acceptent maintenant l'avortement.
Oui.
Avec des petites
restrictions plus ou moins importantes. Hein. En Pologne, c'est pas simple. Hein.
Pologne et Malte, c'est les deux pays. Même l'Irlande maintenant a voté largement pour.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Tout à fait. Donc c'est vrai que tu as bien fait d'en parler. Alors moi, j'avais pensé aborder un autre sujet, mais on n'aura pas le temps, donc on en parlera beaucoup plus longuement la prochaine fois. C'est bien sûr ce qui se passe avec le déclenchement des hostilités entre les États-Unis, Israël et l'Iran, et toutes les catastrophes que ça engendre et toutes les atteintes aux droits humains. Juste un petit commentaire, parce que le communiqué est très long, donc je ne vais pas m'amuser à vous le dire maintenant. M'amuser, c'est un très mauvais mot, mais je ne vais pas me lancer à le lire maintenant. Non, juste simplement, c'est que dans les premières attaques qui ont eu lieu aux États-Unis, je crois que c'était l'aviation américaine en Iran, les premiers bombardements, il y a eu une école en Iran qui a été bombardée. L'administration Trump a prétendu dans les jours qui ont suivi que ce n'était pas eux qui avaient bombardé, effectivement, alors qu'en fait, l'Amnesty International vient de publier les preuves, c'est aujourd'hui, hein, c'est très récent, vient de publier les preuves, oui, c'est bien l'armée américaine qui a bombardé cette école, qui a fait plusieurs dizaines de morts parmi les écoliers et écolières qui étaient dans les locaux. Et en fait, l'explication, c'est que les États-Unis ont utilisé l'intelligence artificielle pour cibler cette école, parce qu'elle était juste à côté d'un centre militaire des gardiens de la Révolution que eux visaient. Et comme ils avaient pas remis, l'intelligence artificielle n'avait pas remis à jour les données, eh bien, en fait, ils ont bombardé et la base militaire des gardiens de la Révolution et l'école qui était juste à côté. Voilà. Donc c'est bien les Américains qui ont commis là, effectivement, leur premier crime de guerre. Ça s'appelle comme ça. Donc voilà, on abordera beaucoup plus longtemps la prochaine fois, dans la prochaine émission, je pense, cette catastrophe humanitaire qui a lieu là aussi sous nos yeux avec le déclenchement de la guerre entre l'Iran et les États-Unis et Israël. Voilà. Donc on se retrouve le 31 mars, le mardi 31 mars. On souhaite une bonne soirée à tout le monde et on laisse la place au laboratoire.
Allez, bonsoir.
Bonsoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.